Chapitre 26. Grand cœur et petit cœur. Il y eut un moment de silence bien plus long que le premier. Les minutes s'écoulaient et tous trois demeuraient muets, n'osant même se regarder. Les paroles de supplication expiraient sur les lèvres de Julien et sa chaude énergie accoutumée lui faisait défaut. Il se sentait écrasé sous l'accablante oppression de l'attente. La première diversion qui eut lieu dans la chambre, le premier signe de vie que donnèrent les trois acteurs de ce terrible drame, vint de Mercy. Incapable de supporter l'effort prolongé de se tenir debout, elle chercha des yeux une chaise et s'y laissa tomber. Aucune autre marque d'émotion ne lui échappa. Elle s'assit, la torpeur mortelle de la résignation continuait d'être peinte sur son visage. Elle attendait silencieusement la sentence d'Horace. Ne venait-elle pas de lui jeter au visage toute la terrible confession de la vérité en un seul mot? Julien leva la tête au moment où Mercy s'affaissa sur cette chaise. Ce fut Horace qu'il regarda, s'avançant vers lui, d'un air de fantôme qui marche. Julien, effrayé, s'adressa tout à coup à Mercy. « Parlez-lui, dit-il, rappelez-le à lui avant qu'il ne soit trop tard. »« Qu'ai-je à lui dire de plus ? » demanda-t-elle d'une voix basse et fatiguée. « Ne lui ai-je pas tout dit en lui apprenant mon nom ?» Ces quelques paroles réveillèrent Horace et cette voix altérée le fit tressaillir. Il s'approcha de Mercy. Son visage exprimait maintenant une sombre surprise. Il posa la main sur l'épaule de la jeune femme. Il resta un moment ainsi en la considérant en silence, puis son esprit tout entier, son seul espoir désormais, se reportèrent sur Julien. Sans ôter la main de dessus l'épaule de la jeune femme, sans détourner les yeux de Mercy, il parla pour la première fois depuis que le coup fatal était tombé sur lui. « Où est Julien ? » demanda-t-il. « Je suis là, Horace, près de vous. « Voulez-vous me rendre service ?»« Certainement. À quoi puis-je vous être bon ?» Horace réfléchit un peu avant de répondre. Sa main, cette fois, quitta l'épaule de Mercy. Il se frotta le front comme pour se rappeler ses pensées. Il prononça d'abord quelques mots inintelligibles. « Je crois, Julien, reprit-il, que j'ai été quelque peu blâmable. Je vous ai dit des mots durs il y a quelque temps déjà. Je ne me rappelle pas clairement de quoi il s'agissait. Mon caractère a été un peu trop mis à l'épreuve dans cette maison. Je n'ai jamais été habitué au genre de choses que l'on trouve ici, des secrets, des mystères, de honteuses querelles de bas étage. Nous n'avons ni secrets ni mystères chez moi. Quant à des querelles, c'est ridicule. Ma mère et mes sœurs sont des femmes parfaitement bien élevées. Vous les connaissez, ce sont des personnes bien nées. Quand je suis avec elle, je n'ai pas d'inquiétude. Je ne suis pas harassé, chez moi, de doutes sur la véritable condition des gens par la confusion des noms, l'intrigue et le reste. J'ai peur que le contraste ne pèse un peu trop sur mon esprit et ne le bouleverse. Je deviens plus méfiant dans cette maison, tout m'y inspire des doutes et des craintes que je ne puis surmonter, des doutes sur vous, des craintes sur moi-même. C'est pour moi que je crains à présent. « J'ai besoin que vous m'aidiez. Dois-je m'excuser d'abord ?»« Pas un mot. Dites-moi ce que j'ai à faire pour vous secourir. » Pour la première fois, Horace tourna la tête du côté de Julien. « Regardez-moi bien, dit-il. Est-ce que vous n'êtes pas persuadé que j'ai l'esprit tout à fait à l'envers ? Dites-moi la vérité, mon vieux camarade. » « Vos nerfs sont un peu ébranlés, Horace. Rien de plus. » Horace réfléchit encore après cette réponse. Ses regards restaient anxieusement fixés sur le visage du jeune ministre. « Mes nerfs sont un peu ébranlés, répéta-t-il. C'est vrai, je sais qu'ils sont ébranlés. J'aimerais, si vous n'y voyez pas d'objection, à m'assurer que ce n'est rien de pire. Voulez-vous m'aider à éprouver si ma mémoire est en bon état ? Je ferai tout ce qui vous plaira. « Ah, vous êtes un brave ami, Julien, et un ami clairvoyant aussi, et c'est ce qu'il faut à cette heure. Regardez, je dis que depuis une semaine environ, les tourments ont commencé ici. Est-ce bien cela ?»« Oui. » »« Les tourments sont arrivés en même temps qu'une femme qui venait d'Allemagne, une étrangère pour nous, qui se comporta très violemment ici dans la salle à manger. Est-ce bien cela ? Parfaitement. Cette femme prenait les choses de très haut. Elle prétendit que le colonel Roseberry... Non, je veux être strictement exact. Elle prétendit que feu le colonel Roseberry était son père. Elle raconta une ennuyeuse histoire, disant qu'on lui avait volé ses papiers et son nom, que la coupable était un imposteur qui avait pris sa place. Elle dit que le nom de l'imposteur était Merci Méric. Après quoi, elle avança une chose hardie qui dépassait tout le reste. Elle indiqua la dame qui avait promis d'être ma femme et déclara que c'était elle qui était Merci. Dites-moi encore si c'est exact ou si je me trompe. Julien lui répondit encore affirmativement. Vous ne vous trompez pas, Horace. Horace continua, parlant avec plus de confiance et plus d'animation qu'il n'avait encore fait. Maintenant, écoutez ceci, Julien. Je vais passer de ce qui est arrivé il y a une semaine à ce qui vient d'arriver il n'y a pas plus de 5 minutes. Vous étiez présent, je veux savoir si vous avez aussi entendu cela. Il s'arrêta et sans cesser de regarder Julien, il montra du doigt Merci qui était derrière lui. Voici la dame qui a promis de m'épouser, reprit-il. L'ai-je ou ne l'ai-je pas entendu dire qu'elle était sortie d'un refuge et qu'elle allait y retourner? L'ai-je ou ne l'ai-je pas entendu reconnaître devant moi que son nom était Merci Méric? Répondez, Julien, mon cher ami, répondez-moi en souvenir du vieux temps. Sa voix tremblait en prononçant cette prière. Sous la pâleur de son visage apparaissaient les premiers symptômes de son émotion qui, enfin, se faisait jour. Son esprit, d'abord anéanti, se ravivait un peu. Julien entrevit l'occasion de l'aider à le lui rendre tout à fait. Il le prit doucement par le bras et lui montra Merci à son tour. « Voilà votre réponse, dit-il. Regardez et prenez pitié d'elle. » Merci n'avait pas essayé de les interrompre, elle avait encore changé de position sur son siège, elle remuait, elle vivait, mais elle n'avait point de voix. Il y avait une table à côté de la chaise, ses bras étendus s'y appuyaient. Sa tête était retombée sur ses bras et son visage était caché dans ses mains. Julien disait donc vrai, l'abandon désespéré de cette attitude était assez éloquent et parlait à Horace comme aucun langage humain n'aurait pu le faire. Horace la regarda. Une rapide convulsion de la douleur agita les muscles de son visage. Il se retourna encore une fois vers le fidèle ami qui lui avait pardonné et laissant tomber sa tête sur l'épaule de Julien, il éclata en sanglots. Merci se redressa d'un air égaré, les regardant tous les deux. « Oh Dieu !» s'écria-t-elle, « qu'ai-je fait ?» Julien la rassura d'un geste. « Vous m'avez aidé à le sauver, » dit-il. « Laissez ses pleurs suivre leur cours, attendez. » Il passa un bras autour de la taille d'Horace pour le soutenir. Cette mâle tendresse, ce noble pardon des injures passées, émurent Merci jusqu'au cœur. Elle retourna à sa chaise. La honte et le chagrin l'écrasaient encore une fois et de nouveau, elle cacha son visage. Julien conduisit Horace à un siège et attendit silencieusement près de lui que le jeune homme fût devenu le maître de ses larmes. Horace prit avec reconnaissance la main amicale qu'il avait soutenue et dit avec la douceur d'un enfant « Merci, Julien, je vais mieux. »« Êtes-vous assez bien remis pour écouter ce qu'on vous dira ?» demanda Julien. « Oui, est-ce que vous voulez me parler ?» Julien, sans répondre immédiatement, retourna près de Merci. « Le moment est venu, lui dit-il. Confessez-lui tout, sincèrement, sans réserve, comme vous me le confesseriez à moi. » Elle frissonnait tandis qu'il lui parlait. « Ne lui en ai-je pas dit assez ? » demanda-t-elle. « Voulez-vous que je lui brise le cœur ? Regardez-le ! Voyez ce que j'ai déjà fait !» Horace recula devant l'épreuve, aussi bien que Merci elle-même. « Non, non, je ne puis l'écouter, je n'ose l'écouter !» s'écria-t-il. Et il se leva pour quitter la chambre. Julien avait pris la bonne œuvre en main, il n'hésita pas un instant à l'accomplir jusqu'au bout. Horace l'avait aimé, Julien apprenait maintenant pour la première fois avec quelle tendresse. Et qui disait qu'elle n'obtiendrait pas son pardon s'il lui était permis de plaider sa cause ? Ah, ce pardon d'Horace, ce serait la mort de l'amour qui remplissait en secret le cœur de Julien. Mais il n'hésita pas une seconde. avec une résolution à laquelle l'homme le plus fort n'aurait pas résisté, il prit Horace par le bras et le reconduisit à sa place. « Pour l'amour d'elle et pour l'amour de vous, ne la condamnez pas sans l'entendre, » dit-il avec fermeté. « On a essayé de la tenter et de la décider à vous tromper. Tentation cruelle qui n'a pas été la seule, elle a résisté à toutes. » Ne craignant plus d'être découverte, armée d'une lettre de sa bienfaitrice qui l'aime et qui lui ordonnait de se taire, menacée, ou plutôt sûre de perdre tout ce qui, pour une femme, fait le charme de la vie si elle confesse son passé, n'est-ce point par conscience et pour l'amour de la vérité? Ne mérite-t-elle rien à vos yeux en retour? Respectez-la, Horace, et écoutez-la. » Horace se soumit. Julien se tourna vers Mercy. « Vous m'avez permis de vous guider jusqu'à présent, » dit-il. « Voulez-vous m'accepter encore pour guide ?» Les yeux de Mercy s'abaissèrent devant les siens. Son sein se souleva. L'influence que Julienne avait sur elle conservait toute sa force. Elle inclina la tête en signe de muette soumission. « Dites-lui, » continua Julienne d'un ton de prière et non de commandement, « dites-lui ce qu'a été votre existence. » « Dites-lui comment vous avez été éprouvé et tenté, sans un seul ami auprès de vous pour vous faire entendre les paroles fortifiantes qui auraient pu vous sauver. » Puis, ajouta-t-il en se levant, « qu'il vous juge alors, s'il le peut. » Il essaya de la conduire à travers la chambre, plus près d'Horace. Mais la soumission de la pauvre femme avait des bornes. À moitié route, elle s'arrêta et refusa d'aller plus loin. Julien lui offrit une chaise. Elle refusa de s'y asseoir. Appuyée d'une main sur le dossier de la chaise, elle attendait un mot d'Horace qui lui permit de parler. Toujours résignée à l'épreuve. Son visage était calme, son esprit était libre. Elle avait subi la plus rude de toutes les humiliations, elle avait avoué son nom. Il ne lui restait plus qu'à montrer sa gratitude à Julien en accédant à ses souhaits et à demander pardon à Horace avant qu'ils ne se séparassent pour toujours. D'ailleurs, dans un moment, la supérieure du refuge allait arriver, et alors, tout serait fini. Horace la regarda, mais à contre-cœur. Leurs yeux se rencontrèrent. Il éclata tout à coup. Sa violence naturelle reparaissait. « Même à présent, s'écria-t-il, je ne puis croire cela. Est-il vrai que vous n'êtes pas Grace Roseberry? Ne me regardez pas, dites un mot, oui ou non. » « Oui. » « Vous avez fait ce que cette femme vous accusait d'avoir fait, dois-je le croire ?»« Vous devez le croire, monsieur. » Toute la faiblesse du caractère d'Horace se révéla sur cette réponse. « Infâme ! » s'écria-t-il, « quelle excuse pouvez-vous faire valoir pour la cruelle déception que vous m'avez fait subir ? Femme indigne, trop indigne, rien ne peut vous excuser. » Elle accepta ses reproches outrageants sans faiblir. « J'ai mérité cela, » se dit-elle, « j'ai tout mérité. » Julien prit encore une fois sa défense. « Attendez, avant de juger, s'il n'y a pas d'excuse pour elle, Horace, » dit-il. « Rendez-lui justice si vous ne pouvez lui accorder davantage. Je vous laisse ensemble. » Il se dirigea vers la porte de la salle à manger. La faiblesse d'Horace se trahit encore une fois. « Ne me laissez pas seul avec elle !» s'écria-t-il. « Ce supplice est plus que je ne puis supporter !» Julien regarda Mercy. Le visage de la jeune femme s'éclaira faiblement. Cette passagère expression de soulagement lui fit voir combien vraiment il lui serait secourable s'il consentait à demeurer dans la chambre. L'embrasure de la grande fenêtre centrale de la bibliothèque lui offrait un lieu de retraite. S'il occupait cette place, il pourrait, à leur gré, tenir ou ne pas tenir compte de sa présence. « Je resterai avec vous, Horace, aussi longtemps que vous le désirerez, » dit-il. Après quoi, il se rendit à la croisée, mais il s'arrêta devant Mercy. Sa prompte et délicate intuition lui dit qu'il pouvait encore la servir. Un mot pouvait lui montrer la plus courte et la moins cruelle manière d'aborder sa confession. « La première fois que je vous ai rencontré, dit-il, j'ai vu que votre existence avait eu ses peines. Apprenez-nous comment ces peines ont commencé. » Puis il se retira dans l'embrasure de la fenêtre. Comme dans cette fatale soirée où Mercy Merrick et Grace Roseberry s'étaient rencontrées dans la chaumière française, Merci Méric jeta un long regard sur le purgatoire terrestre de sa vie passée et commença sa triste histoire simplement, la sincérité au cœur et sur les lèvres, en ces termes.